Radio Okapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information sur Radio Okapi. Voici les titres qui dominent l'actualité aujourd'hui. Kinshasa, la police militaire à la manœuvre pour désengorger la circulation. Déployée sur plusieurs axes stratégiques, les PEM interviennent pour établir l'ordre et fluidifier le trafic conformément aux instructions du chef de l'État. Banyali Tchabi, dans le territoire d'Irumu, des signes de paix après les tempêtes. Les communautés renouent peu à peu avec la cohabitation pacifique soutenue par les efforts des autorités locales pour tourner la page des violences. Planification familiale, un droit à défendre. En marge de la journée mondiale de la contraception, Annie Kamwanya Manassé, présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme, revient sur les enjeux d'accès à la contraception en RDC. Restez à l'écoute, son entretien est à suivre en fin du journal. On commence ce journal avec une actualité qui retient l'attention. La police militaire renforce les rangs des agents des circulations sur plusieurs axes stratégiques de Kinshasa. Depuis lundi matin, les PEM sont visibles à des points névralgiques tels que Kintambo Magasin, Sosimat et le rond-point Willeri, entre autres. Leur mission, rétablir l'ordre et fluidifier le trafic dans une capitale souvent paralysée par des embouteillages. Cette mobilisation fait suite aux directive du chef de l'État émise lors du Conseil des ministres du 19 septembre. Parmi les mesures phares, la lutte contre les stationnements anarchiques qui contribuent largement à la congestion routière. Comment cette présence militaire s'est traduite-t-elle concrètement sur le terrain et quel impact observe-t-on sur la circulation dans les zones concernées? Un reportage signé Luc Nzao et J.R. Kabamba.
À Kintambo Magasin, la station totale longeant l'avenue Colonel Mondjiba est dégagée de tous les taxibus qui y embarquent habituellement pour les grands marchés. Il est 8h à notre arrivée sur ces lieux. On peut apercevoir des éléments de la police militaire en gilet orange flambant neuf avec mention PEM au dos suivi d'une numérotation. Ils sont en train de chasser tout véhicule stationnant de manière anarchique. Nous sommes ici depuis 7h30 à laisser entendre un capitaine PEM commis à cette tâche. La situation est la même au rond-point Willeri. Ceux qui créent des bandes supplémentaires sont priées d'opérer un demi-tour. Certains usagers de ces tronçons apprécient, mais déplorent la brutalité qu'ils subissent. Écoutons ces motards.
Ici, sur Assanef, pour arrêter, donc ils arrêtent avec des brutalités. Voilà pourquoi ils créent toujours des embouteillages. Le gouvernement trouve la solution.
Pour ces taximens, les lieux de stationnement posent problème.
Ici, à Kitambo Magasin, on nous chasse, mais il n'y a pas aussi de parking aménagé pour notre stationnement. On doit juste nous aligner en ordre au lieu de nous chasser.
Signalons par ailleurs que la création des parkings modernes dans la ville figure parmi les instructions données par les chefs de l'État.
En Ituri, les taximotos moteurs de survie dans les centres urbains, comme dans les coins les plus reculés d'Ituri, les taximotos s'imposent comme les piliers du transport local. Pour de nombreux jeunes, il ne s'agit pas seulement d'un moyen de locomotion, mais d'un véritable outil de subsistance, malgré les risques et l'instabilité du métier. Ils y trouvent un revenu pour faire vivre leur famille. Jean-Claude Lokidile est allé à la rencontre de ces conducteurs qui affrontent quotidiennement les routes et les dangers. Reportage.
Le taxi-moto s'est imposé comme le moyen de transport le plus populaire dans la ville du Bounia. Des milliers de jeunes tentent de s'en sortir. Pierrot Langalanga conduit sa moto-taxi depuis près de 20 ans.
Moi, j'ai choisi ce métier. Ça m'aide pour nourrir mes affaires, juste pour payer la collation. On gagne, mais pas tellement. Hein.
Pour les habitants, leur rôle est devenu incontournable.
Dans des endroits, par exemple, inaccessibles, là où le véhicule ne peut pas arriver, on voit toujours le motard transporter les cadavres jusqu'au niveau de la morgue ou soit au lieu de la famille.
Mais l'activité reste risquée. Bati Mugavu, motard depuis 6 ans, évoque les dangers quotidiens.
Avant, c'était facile de parcourir presque partout où vous voulez, mais cette fois-ci, c'est trop grave vu les sécurités.
Face à ce constat, certains appellent à mieux encadrer le secteur. Bati Manganga, conseiller communal à Bounia.
Quand il y a des jeunes gens, au lieu d'aller voler, au lieu d'entrer dans les groupes armés, se démènent pour voir comment aider sa famille. Moi, je pense que l'État a le obligation d'accompagner la jeunesse.
En attendant, les taxis motos continuent de circuler chaque jour, transportant élèves, commerçants et malades. Un métier vital pour l'Ituri, mais encore marqué par la précarité et la sécurité. Bounia, Jean-Claude Louti, Guilé, Radio Kapi.
Province de l'Omami, le pont de Kamutamba est déjà menacé. À peine 2 mois après son installation, ce nouveau pont métallique fait face à des actes de vandalisme. Des boulons sont régulièrement dérobés par des individus non identifiés, selon l'administrateur du territoire de Lulu. Une alerte confirmée par les directeurs provinciaux de l'Office des routes. Face au risque d'effondrement, une équipe technique a été dépêchée sur place pour sécuriser l'ouvrage. Les détails avec Esther Ndalafina.
Le pont Kamutambayi relie les localités de la chefferie de Kachisungu à Luputa, chef-lieu du territoire de Lulu, sur la route provinciale 819. Il facilite les échanges commerciaux et l'évacuation de produits des champs de la chefferie de Kachisungu vers Mweneditu et Mbujimayi, les centres de consommation. C'est depuis près de 2 semaines que les personnes non autrement identifiées se livrent aux actes de sabotage de ce pont, a affirmé l'administrateur du territoire de Lulu.
Nous avons déplacé le poste de la police qui était dans un village, alors nous avons commis au pont pour la surveillance des ponts.
Ingénieur Bravo Ngoy, directeur provincial de l'Office des routes, confirme ces actes de sabotage.
Des inciviques ont enlevé 18 boulons sur le pont, matière que nous venons de lancer il y a à peine 1 mois, et puis ils ont desserré d'autres boulons, ce qui fait que l'ouvrage était en déséquilibre.
Une équipe a été déployée sur place pour les travaux de remplacement des boulons. Ingénieur Bravo Ngoy appelle la population et les autorités à la protection de cet ouvrage.
À notre niveau, nous allons faire des dispositifs en sorte que nous on puisse souder certains endroits où ils sont en train de faire sortir les boulons. Mais il faudrait que la population locale et les autorités coutumières puissent protéger cet ouvrage.
Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre sujet à suivre dans ce journal, en Ituri, des signes encourageants de paix à Banyalichabi dans les territoires d'Irumu. La cohabitation pacifique entre communautés reprend doucement ses droits. Les habitants de différentes ethnies recommencent à se fréquenter, une scène devenue rare après des années de méfiance et de violence. Les autorités locales et les notables multiplient les initiatives pour consolider ces fragiles vivre ensemble dans une région longtemps meurtrie par des exactions des rebelles ADF. Martial Kizabiamungu s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Les marchés, écoles et autres activités récréatives des Tchabi et ses environs se déroulent désormais normalement. Il y a quelques années, cette cohabitation était impossible. Babandi Laou, un des notables de la chefferie des Tchabi, insiste sur cette cohésion sociale pour barrer la route à l'ennemi commun, les ADF.
Les Banyabouissa cohabitent avec les Banyali et les Banyali cohabitent ensemble avec les Banyabouissa. Pour nous, ça a un impact positif parce que si nous sommes unis, nous allons mettre l'ennemi de côté.
Pour le gouverneur des provinces de l'Ituri qui revient de la zone, la stabilité de cette région va de pair avec les vivre ensemble entre les différentes communautés. Le général Johnny Luboya.
Vous savez, cet ennemi qui vient déranger ici, c'est pas un ennemi qui vient de loin. Et donc, j'ai demandé à cette population de vivre en paix, de s'entendre, parce que s'ils sont ensemble, ils vont faire barrage à cette menace des ADF et autres là.
La MONUSCO, à travers sa chef adjointe Viviane Van Depper, qui s'est rendue sur place la semaine dernière, a réaffirmé la détermination de la mission onusienne à appuyer les efforts du gouvernement pour la stabilité de cette région. Des retours de Tchabi, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Alerte sanitaire à Kibua, au Nord Kivu, dans le territoire de Walikale. La zone de santé de Kibua est en grande difficulté depuis plusieurs mois. Le 20 R de santé qui la compose sont privés des médicaments essentiels, compromettant gravement la prise en charge des patients. Face à cette rupture prolongée, le médecin chef de zone lance un appel pressant aux autorités sanitaires et partenaires d'appui. Une aide urgente est désormais vitale pour éviter une crise humanitaire. Babel Pongo nous en dit plus.
Les 20 aires de santé de la zone de Kibouwa sont en rupture d'approvisionnement en médicaments depuis qu'elles ne sont plus appuyées par leurs partenaires, dit le médecin chef de zone. Pour lui, l'ONG Première Urgence, par exemple, qui a appuyé au moins 8 aires de santé, n'accède plus à la zone depuis 2024. Une situation due, selon lui, à l'insécurité, l'inaccessibilité des routes, exacerbée par l'avènement de la rébellion de l'AFC M23 dans la zone. Du coup, la prise en charge des malades, en particulier des personnes vulnérables, pose problème. Dr Yves Tchongo lance un SOS auprès des partenaires, mais aussi auprès des autorités sanitaires pour un appui à la zone de santé de Kibouwa.
Aujourd'hui, beaucoup de la population est déplacée. Certains commencent à retourner, mais sont démunis de moyens pour payer les soins au niveau des centres de santé. Alors, les responsables des établissements de soins ont difficile aussi d'assurer le fonctionnement des structures en s'approvisionnant en médicaments. Alors, nous lançons un SOS auprès des partenaires pour voir comment arriver à appuyer cette zone de santé.
Docteur Yves Tchongo ajoute que plusieurs déplacés commencent à retourner dans la zone, mais ils sont démunis et manquent de moyens pour payer les soins médicaux auprès des structures sanitaires. Il signale aussi que des cas de paludisme, de gale et de diarrhée sont les plus fréquents dans ces structures sanitaires.
Tchopo, les habitants de Kisangani sont désormais invités à jouer un rôle actif dans la lutte contre les infiltrations rebelles dans leur province. Ce lundi, le général de brigade Jean-Daniel Batambombi, premier commandant adjoint en charge de l'éducation civique et patriotique à l'état-major général des FARDC, a lancé un message fort s'adressant notamment aux taximens moto et aux cadres territoriaux. Il a insisté sur l'importance de la collaboration entre civils et forces de sécurité pour préserver la stabilité de l'entité. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
Ils étaient nombreux à la place des martyrs, les taximens moto venus écouter le général Jean-Daniel Batabombi Panza. Le chargé de l'éducation civique et patriotique des FRDC n'avait qu'un seul message à leur égard, à savoir transmettre l'information sécuritaire en temps réel aux autorités tant civiles, policières que militaires. Ceci afin d'empêcher l'extension de la rébellion dans cette entité. Le général les exhortait donc à la collaboration sans laquelle il serait difficile d'échapper à l'infiltration. Par ailleurs, le même message est transmis au bourgmestre, chef de quartier et d'avenue de la ville de Kisangani.
Tout en refusant ce qui se passe au niveau du nord Kivu et du sud Kivu, nous vous demandons également d'être vigilants et de refuser que cette question de la rébellion puisse s'étendre dans la province de la Tchopo. Je vous ai dit qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Il faut être vigilant. Vous avez des responsabilités. L'armée compte sur vous. Vous pouvez aussi compter sur votre armée.
Les taximens moto, les bourgmestres et leurs collaborateurs disent avoir compris ce message. Ils souhaitent que la collaboration soit franche entre eux et les autorités. Ils ont par ailleurs dénoncé des tracasseries militaires et policières et parfois le manque de matériel pour les administratifs en vue de mieux exercer leur travail. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, des boulangeries épinglées pour insalubrité. Ce week-end, le maire de Lubumbashi a effectué une descente dans plusieurs boulangeries de la ville. Verdict sans appel, certaines fabriquent du pain dans des conditions d'hygiène déplorables. Face à ces constats, l'autorité urbaine a ordonné la fermeture immédiate des établissements concernés pour non-respect des normes sanitaires. Le point avec Paulin Munanga.
Les deux boulangeries visitées par le maire de Lubumbashi sont situées dans les environs du marché Mimbulu, au niveau de Machipicha à Lubumbashi. L'extérieur de ces boutiques de pain offre une bonne image, mais à l'intérieur, les normes sanitaires requises sont loin d'être respectées. D'après des témoins, les matériels utilisés pour la fabrication du pain sont crasseux. Des pâtes pour faire cet aliment sont conservées dans un environnement malsain. Placées à même le sol, ces pâtes sont envahies par des mouches et commencent déjà à se détériorer, rapportent des témoins. Ces mélanges seront mis dans des fours pour la fabrication du pain ou autres pâtisseries destinées à la consommation humaine. L'eau qui est utilisée pour faire les mélanges de ces pâtes n'est pas propre. Même les agents qui fabriquent le pain ont un aspect qui ne rassure pas sur le plan hygiénique, remarque le maire de Lubumbashi. Patrick Kafouimbi souligne aussi que la propreté des toilettes est négligée. Face à cette situation, le maire de Lubumbashi a ordonné à ses services de sceller ses boulangeries. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Retour ici à Kinshasa, dans les quartiers de Ndjili et Kimbansé, qui est plusieurs sites situés le long de la route Sekomaf, notamment à Terre Jaune, Essanga, Mosengo et Salongo sont devenus des zones maraîchères. Pour les cultivateurs, cette activité est bien plus qu'un métier. Elle leur permet de nourrir leur famille et de scolariser leurs enfants. Mais derrière ces parcelles verdoyantes se cachent de nombreuses difficultés, manque d'eau, menace de déguerpissement. Les maraîchères tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à protéger ce qui constitue leur seul moyen de subsistance. Gloriane Lepeya est allée à leur rencontre. Reportage.
Lorsqu'on se rend sur cette partie de la route Sekomaf, on est émerveillé par les étendues vertes qui s'étalent à longueur de vue. Il s'agit des plates-bandes de légumes, aubergines, gombo, choux et autres. Ces terrains sont exploités par les propriétaires eux-mêmes ou loués par de tierces personnes. Les maraîchers disent trouver dans cette activité de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Sylvie Ndombasi.
Ces champs est notre gagne-pain. Je nourris mes enfants avec ces travaux de champ.
Toutefois, pour Emérance Nzaïlou, maraîchère, l'activité agricole est à double tranchant. Si elle permet de nourrir plusieurs, elle reste difficile à exercer sans appui. Elle plaide pour un accompagnement des autorités.
Ces travaux nous font vivre, mais nous souffrons. Nous avons besoin de soutien car nos productions nourrissent la population congolaise. L'accès à l'eau nous fait le plus défaut que les autorités.
Autre problème, c'est les risques de dépossession de ces terres, explique Noël Malenga.
On menace de nous déloger de ces sites pour en faire un dépotoir. Aidez-nous qu'on ne nous ravisse pas ces lieux.
Ces cultivateurs appellent les autorités à intervenir pour sécuriser cet espace vital pour eux.
Actualité internationale.
Le samedi 27 septembre à 20h, les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran ont été réactivées, mettant fin à 10 années d'allègement prévues par l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Cette décision découle de l'activation un mois plus tôt du mécanisme de snapback par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en réponse au manquement de Téhéran à ses engagements. Négociés en 2015, l'accord visait à garantir les caractères pacifiques du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions, faute de consensus au Conseil de sécurité, notamment face aux tentatives de la Russie et de la Chine pour prolonger l'allègement. Les mesures coercitives sont automatiquement revenues en vigueur. Ces rétablissements marquent un tournant décisif, sonnant pratiquement la fin de l'accord déjà fragilisé par le retrait des États-Unis en 2018 et le désengagement progressif de l'Iran.
L'invité.
Invité de la rédaction, Annie Kamwanya Manassé, à l'occasion de la journée mondiale de la contraception célébrée le 26 septembre, la Société congolaise de la pratique sage-femme a organisé une conférence débat à Kindu, objectif sensibiliser la population à l'importance de la planification familiale. Placée sous le thème « La planification familiale, un droit pour tous », cette rencontre a mis l'accent sur l'accès universel à la contraception comme l'évier de santé publique et l'autonomisation. La présidente de cette structure, Annie Kamwanya Manassé, est notre invitée. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Annie Kamwanya Manassé, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Dans une conférence débat aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la contraception, vous avez réuni beaucoup de gens. De quoi est-ce qu'il a été question au cours de cette rencontre?
Il a été une question de parler avec différentes couches de la population de Maniema concernant la planification familiale, parce que nous avons trouvé qu'il y a un problème majeur dans la communauté sur la planification familiale. Tellement que nous, les sages-femmes, nous sommes à tout moment avec les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Nous avons trouvé que beaucoup de femmes vraiment n'ont pas encore maîtrisé la planification familiale. C'est pourquoi nous constatons il y a beaucoup de décès maternels et beaucoup de femmes meurent parce qu'ils n'ont pas bien planifié leur naissance. Et la femme ne peut pas mourir en donnant la vie et l'enfant aussi ne peut pas mourir en venant au monde. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'appeler les couches différentes de gens pour leur parler de la planification familiale.
Pourquoi est-il important de planifier une naissance?
C'est important de planifier une naissance parce que un couple ou bien une famille doit avoir l'enfant au moment voulu et le nombre voulu par ces couples. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'enfants, mais on ne sait pas les encadrer. Et quand on ne sait pas les encadrer, c'est pourquoi nous voyons il y a beaucoup de kulouna, de bandits, et tout ça parce que les parents ne savent pas prendre en charge leurs responsabilités.
Combien de méthodes y a-t-il pour la planification familiale?
Il y a 4 méthodes pour la planification familiale. La première méthode est la méthode naturelle. Et là, nous trouvons comment la femme peut utiliser son calendrier. Il y a aussi les colliers du cycle, comment la femme peut utiliser son collier du cycle. Il y a aussi la maman que nous appelons en la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Et nous expliquons aux femmes comment elles peuvent allaiter l'enfant exclusivement jusqu'à 6 mois. Et c'est une méthode qui aide les femmes à ne pas concevoir pendant qu'elles sont en train d'allaiter les enfants exclusivement durant les 6 mois. Et il y a aussi méthode d'auto-observation. C'est ça la méthode qui nous aide à utiliser le thermomètre. Comment connaître la température dans son vagin et connaître qu'à la période d'ovulation, la température est toujours élevée. Deuxième méthode, c'est méthode artificielle. Et là, où nous voyons, il y a des dispositifs intra-utérins. Nous avons de Jadel, des implants NXT, des Sayana Press. Nous avons aussi de Noristera. Troisième méthode, c'est méthode de barrière. C'est là que nous trouvons des préservatifs avec des préservatifs masculins, préservatifs féminins que nous appelons aussi fémidons. Il y a aussi la méthode définitive qui est la 4e méthode. C'est là que nous avons trouvé, il y a ligature et section des trompes chez la femme et aussi chez l'homme, nous avons la vasectomie. Donc pour cette méthode ici, ça nécessite l'intervention chirurgicale.
Mais parmi la communauté, vous avez suivi vous-même, il y a ceux-là qui ont peur de choisir l'une de méthodes étant donné que selon eux, il y a des conséquences négatives.
Nous avons enlevé cet équivoque. Nous avons explicité, expliqué aux femmes comment les méthodes sont importantes et comment gérer les effets secondaires de ces méthodes si et seulement si ça apparaissent. Et nous avons expliqué aussi aux femmes que les effets secondaires de ces méthodes contraceptives, ça dépend d'un organisme à un autre. Donc, ce n'est pas un cas à généraliser. C'est pourquoi il est important que la femme ou bien les couples consultent les personnels soignants comme les sages-femmes, les gynécologues obstétriciens qui vont leur expliquer comment prendre les méthodes, montrer d'abord les méthodes dans la généralité afin d'aider la femme à bien choisir les méthodes qui lui conviennent.
Madame Annie, pourquoi est-il important dans notre pays de promouvoir la planification familiale?
Il est important, Madame la journaliste, de promouvoir la planification familiale dans notre pays parce que si chaque couple, chaque famille limitait les naissances ou bien avoir les enfants au moment voulu, je pense que ça ne sera pas une charge au gouvernement. Mais si on ne sait pas limiter les naissances, c'est une charge et pour la famille et pour les pays.
Est-ce que les méthodes contraceptives sont vendues ou bien c'est à donner gratuitement?
Il est recommandé de donner gratuitement les méthodes contraceptives. C'est pour les fins de sauver les vies de nos femmes ou bien de la communauté. Et quand on trouve un personnel soignant en train de vendre, c'est préjudiciable par la loi, Madame la journaliste.
Madame Annie Kamonya Manassé, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la journaliste.
Annie Kamonya Manassé, présidente de la Société congolaise de la pratique sage-femme, s'est exprimée sur les enjeux de la planification familiale et l'accès à la contraception à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception. Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre écoute et de votre fidélité. L'actualité continue sur Radio Okapi et nos plateformes numériques. Restez informés, restez connectés.